RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Abidjan et en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet.
Et on ira d'abord en Côte d'Ivoire pour entendre la colère de la filière cacao. Baisse de la production, changement climatique, difficulté de commercialisation. Résultat, les affaires de trafic de produits agricoles vers les pays voisins se multiplient. Renforcer l'indépendance de la justice tout en la rapprochant des citoyens. Au Sénégal, le défi de Bassirou Diomaye Faye. Le président assistait à la rentrée des cours et des tribunaux. Hier, il promet d'en améliorer le fonctionnement. Au sommet également. On sera au Maroc, où les échanges commerciaux avec l'enclave espagnole de Melilla semblent reprendre, du moins partiellement. En Tunisie, où le cessez-le-feu à Gaza est accueilli avec soulagement. Et puis à Brazzaville, où nous emmène notre dossier ce matin. On enfile notre cartable à la rencontre des étudiants qui viennent travailler sous les lampadaires à la tombée de la nuit.
Il transportait 4 tonnes de café brut vers le Mali. En Côte d'Ivoire, un camion a été saisi par les autorités.
Annonce hier du procureur de la République. 10 personnes ont été arrêtées. Une information judiciaire a été ouverte pour corruption, exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément et blanchiment. Nouvel épisode d'une longue série, celle de la fuite des produits agricoles vers les pays voisins. Un phénomène régulièrement dénoncé par les autorités et qui suscite la colère des agriculteurs. C'est notamment le cas dans la filière cacao. Binta Diagne, le syndicat agricole Synapsi, tire la sonnette d'alarme.
Baisse de la production, difficulté à s'adapter au changement climatique et surtout problème de commercialisation. Selon Moussa Koné, le président du Synapsi, le prix fixé à 1800 francs CFA le kilo pour la grande traite est trop bas. Cela contribue en partie, selon lui, à la fuite des produits agricoles vers les pays voisins.
Le problématique qu'ils appellent trafic, là, c'est parce qu'ils payent mal le cacao. Un planteur prend son cacao. En 2 km de son champ, on paye cacao à 5 000. Au pire, on le contraint de prendre à 700 km pour venir vendre à 1800. L'intelligence humaine ne peut pas accepter ça.
Il n'y a pas de chiffres précis, mais les exportateurs parlent de près de 50 000 tonnes de produits agricoles illégalement vendus vers les pays voisins au dernier trimestre 2024. Cela représente une perte considérable, selon Jean-Michel Armand Kouassi, le président de la Ligue ivoirienne des producteurs agricoles.
Il y a des pistes qui servent d'une voie de désert. Il y a également des voies fluviales que les contrebandiers utilisent. Donc, c'est des milliards de francs CFA qui s'en vont là-bas. C'est un manque à gagner criard pour notre économie.
L'état-major de l'armée a annoncé la suspension de plusieurs responsables administratifs, sécuritaires et militaires dans le département de Sipilou, impliqués dans ce phénomène. L'armée a assuré la poursuite de ses opérations de contrôle le long de la frontière, notamment à l'ouest du pays. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Le Togo pourra-t-il rejoindre l'alliance des États du Sahel? Ça n'est pas impossible, selon son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui rappelle tout de même que la décision appartient au président de la République. Le chef de la diplomatie togolaise, interviewé sur la chaîne Vox Africa, a également estimé, je cite, que les populations togolaises, si on les interrogeait, y seraient favorables. Depuis un an, le Togo joue les intermédiaires entre l'AES et la CEDEAO.
Jour de rentrée hier pour les cours et les tribunaux du Sénégal, et comme le veut la tradition, la cérémonie était présidée par le chef de l'État.
La première pour Bassirou Diomaye Faye depuis son arrivée au pouvoir, le président a pris la parole devant les magistrats et les avocats, l'occasion pour lui de faire un état des lieux de la justice et de renouveler certaines promesses, Léa Lisa Vesterhoff.
Renforcer l'indépendance de la justice et la rapprocher des citoyens, hier encore, Bassirou Diomaye Faye a rappelé cette double injonction aux acteurs du système judiciaire.
Les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. Chaque juge, dans l'intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l'éthique et à la vérité et dire le droit sans céder à l'injustice. Pour que plus jamais la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise.
Le président du Sénégal se sait très attendu sur le sujet de l'indépendance de la justice. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats le lui a rappelé hier. Rappelé aussi les 30 recommandations qui avaient été faites par la société civile à l'issue des assises de la justice en mai, comme celle d'avoir une cour constitutionnelle avec des juges qui ne seraient plus nommés par le président. Des réformes qui attendent désormais d'être adoptées. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Un ressortissant espagnol enlevé dans le sud de l'Algérie, confirmation ce matin de Madrid. Des hommes armés l'ont emmené au Mali voisin, pas de revendication à ce stade, mais les sources jointes par RFI accusent la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. Le ministère espagnol des Affaires étrangères dit se saisir de l'affaire, on y revient en détail dans le prochain journal. L'Espagne qui tente de relancer le commerce avec le Maroc, avec un nouveau rebondissement dans les négociations cette semaine, un premier camion de marchandises a pu quitter cette semaine l'enclave de Melilla pour rejoindre Nador dans le nord du royaume. Retour sur 6 ans de tensions commerciales avec notre correspondant à Casablanca, Mathias Reynal.
La déléguée du gouvernement espagnol de cette enclave située dans le nord du Maroc a salué, je cite, un pas de plus vers la normalisation de la frontière. C'est Rabat qui avait décidé en 2018 de fermer la douane commerciale avec Melilla dans un contexte de fortes tensions diplomatiques. 2 ans plus tard, avec la pandémie de Covid-19, les barrières s'abaissent définitivement sur les points de passage de Melilla et de Ceuta, appelés SEPTA par les Marocains. Les frontières n'ont rouvert qu'en mai 2022, après que Madrid a décidé d'afficher son soutien au projet marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Les douanes commerciales, elles, sont restées fermées pour des raisons techniques, selon les autorités espagnoles. Si la relance du commerce a pris du temps, c'est parce que Rabat veut empêcher le retour de l'anarchie et de la contrebande qui ont longtemps été la règle dans la zone, notamment à SEPTA, entraînant une concurrence déloyale pour son économie. Les autorités marocaines n'ont pas confirmé de leur côté la réouverture des douanes commerciales terrestres avec les 2 enclaves espagnoles. Interrogé à ce sujet hier en conférence de presse, le porte-parole du gouvernement n'a pas souhaité faire de commentaires. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Il est 6h36, en temps universel. L'actualité dans le monde, dominée par l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le cabinet de sécurité israélien et la coalition gouvernementale doivent encore se réunir aujourd'hui pour valider le texte.
L'annonce de l'accord censé entrer en vigueur dimanche a provoqué des scènes de liesse à Tunis. Il faut dire que la guerre à Gaza est très suivie en Tunisie. Le pays avait accueilli l'organisation de libération de la Palestine de 1982 à 1994. En février dernier, un professeur de droit, Slim Lahmani, avait dénoncé au nom de la Tunisie la guerre dans l'enclave auprès de la Cour internationale de justice. Et aujourd'hui, selon lui, la bataille juridique continue.
L'accord n'est pas un moindre mal. D'abord, c'est une nécessité. Il faut arrêter de tuer. Ce n'est pas l'objet d'une analyse ni philosophique, ni politique, ni juridique, ni rien du tout. Il faut qu'on arrête de tuer. Donc c'est pour ça que je suis content de cet accord et j'espère que cet accord sera respecté par ceux qui tuent. L'Afrique du Sud a porté l'affaire devant la CIJ. Or, dans cette convention, la tentative de génocide elle-même est considérée comme un crime international. Je veux dire par là que même si on arrête de tuer, la tentative de génocide y est. Donc il n'y a aucune raison pour que la CIJ ne se prononce pas sur cette question. Elle est tenue de se prononcer parce qu'il y a eu, même s'il n'y a pas, et heureusement, on peut espérer, même s'il n'y a qu'une tentative de génocide, eh bien, c'est la tentative équivaut au crime.
Le professeur de droit international tunisien Slim Lahmani. En bref, Faustin Archange Touadéra à Moscou. Le président centrafricain a rencontré Vladimir Poutine hier. Dans son discours, il s'est félicité de la présence des forces russes dans son pays. Récit de l'entretien avec notre correspondante à Moscou à retrouver sur RFI.fr. Lui entame le 2e jour de sa visite d'État à Paris. Le président angolais s'est entretenu avec Emmanuel Macron hier. Déjeuner de travail et dîner d'État à l'Élysée. Le président angolais est médiateur entre la RDC et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda. Alors forcément, Lisa Fabian, le conflit dans l'est de la RDC a occupé une grande partie de la visite.
Emmanuel Macron a souligné que son pays et l'Angola occuperont bientôt des positions diplomatiques clés sur la scène internationale.
Dans quelques semaines, vous prendrez la présidence de l'Union africaine et je vous souhaite tout le succès requis. Et la France aura en 2026 la présidence du G7. Nous avons évoqué la crise des Grands Lacs et nous y reviendrons. La France soutient votre investissement sans relâche dans le cadre du processus de Luanda. La priorité doit aller au dialogue, à la recherche d'une paix durable, dans le respect de l'intégrité territoriale de la région. République démocratique du Congo.
Cette visite d'État comprenait aussi un important volet économique. La France et l'Angola ont notamment annoncé la signature de contrats et d'investissements s'élevant à plus de 420 millions d'euros. João Lourenço s'en est félicité.
Nous allons développer encore notre coopération dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, de la santé, de l'enseignement supérieur, des ressources minérales, du pétrole et du gaz. Dans le secteur de l'assainissement de l'eau, les investissements du groupe Suez sont déjà une réalité dans la capitale Luanda pour assurer l'accès à l'eau potable pour plus de 3 millions de personnes.
13 millions d'habitants.
Ce vendredi, la délégation angolaise est reçue au siège du MEDEF, le patronat français, dans le cadre d'un forum économique.
Lisa Fabian, quelques jours avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis sanctionnent le chef des forces armées soudanaises. Washington reproche au général Al-Burhan d'être un obstacle à la transition démocratique. Réaction dans la soirée du gouvernement soudanais, il évoque des sanctions immorales. Il y a quelques semaines, Washington avait déjà sanctionné le chef des paramilitaires des forces de soutien rapide, qu'il accuse de génocide.
Des cartables qui s'entassent au pied des lampadaires, des cahiers et des stylos qui fleurissent en pleine rue à Brazzaville. De plus en plus d'étudiants attendent la tombée de la nuit et l'allumage de l'éclairage public pour travailler.
Conséquence, des coupures d'électricité domestique qui touchent la capitale congolaise. Ce spectacle nocturne est au cœur d'une exposition photo à voir à l'Institut français du Congo jusqu'au 12 février. Notre correspondant Loïcia Martial est allé à la rencontre de ces jeunes qui se rassemblent sous les lampadaires une fois le soleil. Soleil couché, reportage.
La nuit est sur le point de tomber sur Brazzaville. Nous roulons sur la corniche qui borde le fleuve Congo. Au sortir du pont du 15 août, l'obscurité est omniprésente, faute d'électricité. Il faut rouler sur plusieurs kilomètres pour trouver quelques lampadaires qui éclairent la voie, notamment au croisement de la rue Kitenge à Makelekele. Quelques jeunes élèves révisent leurs leçons sous le cône de lumière.
C'est une bonne chose en fait. C'est bien éclairé et il y a de l'air pur. Du coup, tu as plus de concentration et tu n'as pas du mal à mémoriser tes leçons.
Il y a de l'air pur, donc c'est frais. Quand tu lis, il n'y a pas de dérangement. Tu es là au calme. Les leçons, tu as la facilité de retenir ce que tu lis.
Cependant, quelques étudiants évitent parfois la lecture sous les lampadaires.
Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Et lorsque tu arrives là-bas aussi, tu peux être distrait et la lumière des lampadaires là aussi sur le cahier aussi, ça peut frapper aux yeux et ça peut créer des maux d'yeux, tout ça.
À Brazzaville, quand l'énergie domestique est coupée et les lampadaires ne s'allument pas, les étudiants sont contraints de lire à la lumière de la bougie, voire du téléphone. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Réviser à la tombée de la nuit, à la lumière des lampadaires, forcément, eh bien, cela donne des photos poétiques. Baudouin Mwanda est un jeune photographe congolais. Il est très connu du public depuis de longues années et il expose ses photos jusqu'au 12 février sur le fantôme de la corniche. C'est le nom de son exposition.
Quand je parle des fantômes, je fais plutôt allusion lorsqu'il y a coupure. Vous êtes en train de lire et tout de suite vous avez coupure d'électricité. On a comme l'impression que plus loin, il y a une torche qui s'allume. Et cette torche-là, on a l'impression, c'est comme si c'était quelqu'un qui était caché. Et c'est pourquoi est-ce que l'intuition était venue pour pouvoir appeler cette série « Les fantômes des corniches ». Aujourd'hui, on se rend compte que les continents africains et un peu en avance de parler du développement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement tant que la copie sur la question de l'électrification n'est pas résolu. Et ce sont les mêmes jeunes que nous voyons, qui étudient dans de rue. Aujourd'hui, lorsqu'il part en Europe, il ne revient plus. Et pourtant, aujourd'hui aussi, on parle généralement de pouvoir aider les jeunes. Ces jeunes étudiants, lorsqu'ils vont étudier à l'extérieur, on a bien envie de revenir avec des projets. Mais lorsqu'on se rend compte que nous allons créer une entreprise et qu'on n'a pas vraiment de l'énergie qu'il faut, on a comme l'impression, c'est comme si nous tournions dans le vide.
Le photographe congolais Baudouin Mwanda au micro de notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial. Et c'est donc avec ce dossier à retrouver sur notre site RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio que se referme ce journal. Et je vous laisse en compagnie de Julien Coquelroem pour la suite d'RFI Matin.
Merci Arthur Pongelet, à tout à l'heure.